Il est 22h à Abuja, Kano et Lagos. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, une émission spéciale consacrée à l'annonce ce matin d'un cessez-le-feu entre Boko Haram et les autorités nigérianes. Nous entendrons la déclaration du chef d'état-major de l'armée nigériane, mais aussi la confirmation du ministre des Affaires étrangères du Tchad. Au Nigeria, les réactions sont diverses. Si certains sont soulagés, d'autres affichent leur scepticisme. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a fixé au 15 février prochain la fin de la transition, censée déboucher sur l'organisation d'élections dans ce pays qui vit une crise sans précédent depuis un an et demi. Cette annonce, d'après l'AFP, intervient au terme de consultations avec les forces vives de la nation visant à apaiser le climat après la flambée de violence qui a secoué Bangui pendant 10 jours, faisant plus de 20 morts. La fièvre hémorragique Ebola a fait 4555 morts sur 9216 cas enregistrés, selon le dernier bilan publié aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a établi qu'il n'y a plus d'Ebola au Sénégal, 42 jours après la guérison du seul cas d'Ebola qu'a connu le pays. Le président américain Barack Obama, lui, a nommé un ancien conseiller du vice-président américain Joe Biden, Ron Klain, pour coordonner les efforts des États-Unis dans la lutte contre le virus. Au moins 18 personnes ont été tuées dans de violents affrontements à Benghazi, dans l'est de la Libye, entre les forces pro-gouvernementales et des groupes islamistes. Cela porte à 52 morts. Le bilan de la nouvelle offensive lancée mercredi par des forces loyales au général à la retraite Khalifa Haftar, appuyé par l'armée, contre les groupes islamistes qui contrôlent Benghazi depuis juillet. D'après l'AFP, ces combats sont les plus violents depuis le début de cette offensive.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Des progrès encourageants ont été faits grâce aux raids aériens de la coalition et aux efforts des combattants kurdes contre les militants du groupe État islamique à Kobané. C'est ce qu'a déclaré le général Lloyd Austin, commandant des forces américaines au Moyen-Orient. Mais il estime encore fort possible la chute de cette ville syrienne. Les détails avec Scott Bob, l'envoyé spécial de la VOA à la frontière turco-syrienne, joint par Idrissa Seydoudia.
La situation est encore floue. Il n'y a aucun vainqueur. Il faut dire que les forces de l'État islamique ont été repoussées par les frappes américaines et les milices kurdiennes ont pu reprendre certaines portions de la ville, mais ça reste vraiment à l'impasse avec les forces de l'État islamique qui contrôlent à peu près 50% de la ville à l'est, surtout, et les alentours dans les villages proches, et les milices kurdiennes qui sont dans le côté ouest de la ville.
Alors, vous êtes convaincu, sur la base de ce que vous observez là où vous vous trouvez, que les Kurdes sont en mesure de tenir tête aux miliciens de l'État islamique?
Les informations que je reçois ici, ça vient des Kurdes, des réfugiés qui ont quitté la ville de Kobané, mais qui restent en contact avec les quelques centaines de personnes, de familles ou amis qui restent dans la ville. Et eux qui disent que la situation s'est beaucoup améliorée ces derniers 3-4 jours, après une quarantaine de frappes des avions de chasse américains. Mais la bataille n'est pas finie et ce n'est pas assuré la victoire, disons.
Et les militants du groupe État islamique ont revendiqué la responsabilité d'une série d'attentats à la voiture piégée et d'attaques aux mortiers dans les quartiers chiites de Bagdad, la capitale irakienne. Au moins 36 personnes ont été tuées. Au Pakistan, un tribunal a confirmé la peine de mort prononcée contre Asia Bibi, une chrétienne dont la condamnation en 2010 pour blasphème avait mené à l'assassinat de deux politiciens qui la défendaient. Son avocat se propose d'interjeter appel, tandis qu'Amnesty International parle de graves injustices. À Hong Kong, un groupe qui aide à organiser les manifestations pro-démocratie met en doute la sincérité du gouvernement qui appelle au dialogue. Occupy Central réagissait ainsi au dernier raid effectué tôt ce matin par des centaines de policiers contre les protestataires dans le quartier densément peuplé de Mong Kok. Vous écoutez La Voix de l'Amérique et la suite, c'est avec Sahel Plus.
Merci. Retour dans la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique pour cette émission spéciale consacrée au cessez-le-feu annoncé par les autorités nigérianes et le groupe terroriste Boko Haram. Les deux parties disent être parvenues à un accord ce vendredi à l'issue de discussions en Arabie Saoudite impliquant le président tchadien Idriss Déby et des représentants du Cameroun. Écoutons Alex Badet, chef d'état-major de l'armée du Nigeria.
But without any prejudice to the outcome of our 3 days interaction and the conclusion of this forum, I wish to inform this audience.
Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement fédéral du Nigeria et Jamaatu Ahlis-Sunna Lida Awati Ewal Jihad. J'ai donné des directives aux chefs de différents corps de l'armée afin que l'on assure que ces récents développements soient appliqués sur le terrain.
C'était Alex Badet, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria. D'autre part, la Voix de l'Amérique a pu s'entretenir avec Danladi Amadou, qui se présente comme le secrétaire général de Boko Haram, et il a déclaré à la VOA qu'un accord de cessez-le-feu avait effectivement été paraphé. Autre confirmation officielle, celle du ministre des Affaires étrangères du Tchad, Moussa Faki Mahamat.
Écoutez, à la demande des deux parties, le gouvernement du Nigeria et le groupe Boko Haram, des contacts ont eu lieu le 14 et 30 septembre dernier à Ndjamena. Les deux parties ont accepté le principe de régler leurs différends par le dialogue. Et donc, à cet effet, elles ont convenu de déposer un certain nombre d'actes matérialisant leur bonne volonté, entre autres la libération des otages chinois et camerounais et l'annonce d'un cessez-le-feu, ce qui est effectif. Les parties ont également convenu, notamment le groupe Boko Haram a accepté le principe de libérer le site enlevé à Chibok. Et les modalités de cette libération seront convenues entre les parties et les quatre qui assurent le rôle de facilitateur. Il est également prévu en contrepartie que certains partisans de Boko Haram soient également libérés. Il est prévu de continuer les discussions dans les jours à venir.
Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ces jeunes lycéennes vont être libérés?
Je ne peux pas être affirmatif. L'engagement est pris. Les partis ont convenu de se retrouver pour voir les modalités pratiques, incessamment.
Mais on a vu que très souvent, Boko Haram prenait des engagements et derrière eux, leur chef présumé, Aboubakar Shekau, remettait en question ce qui venait d'être conclu.
De toutes les façons, je ne peux pas préjuger du résultat, mais les deux parties ont discuté à maintes reprises, dans la plupart du temps toutes seules. Nous avons facilité le contact et ils ont convenu, comme je vous l'ai dit, entre autres la libération des filles de Chibok et la libération de certains partisans de Boko Haram qui sont dans les prisons nigérianes. Ils ont convenu de se retrouver, donc on a constaté la libération effective des Chinois et des Camerounais. Le cessez-le-feu qui était convenu d'être annoncé vient de l'être. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je l'espère en tout cas.
Et le cessez-le-feu commence à entrer en vigueur quand?
Immédiatement. Je crois qu'avant-hier soir, Boko Haram a annoncé et aujourd'hui, le gouvernement du Nigeria a également annoncé la cessation de hostilités.
Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, au micro d'Idriss Fall. Au Cameroun, pays voisin qui subit également les attaques des islamistes nigérians, l'annonce de la signature de cet accord est accueillie avec beaucoup de précautions. Les Camerounais se posent beaucoup de questions. Jean-Roger Bion a joint Moki Edwin Kinzeka, l'un des correspondants de la VOA au Cameroun.
Ça fait plutôt peur et les Camerounais se posent beaucoup de questions. Mais est-ce que Boko Haram est en train de changer les tactiques? Hier matin, les guerriers de Boko Haram sont attaqués à Amtibé et Fort Kol au Cameroun. Pendant les négociations, bon, ils ont tué beaucoup de Camerounais et ils ont laissé 3 de leurs voitures blindées acheminées à Fort Kol. Si c'est vrai qu'ils négociaient pour le cessez-le-feu, on ne comprend pas pourquoi ils ont attaqué le Nord Cameroun pendant les négociations de 1 et de 2. Il y a eu le problème de libération du otage chinois et de 17 Camerounais, là où l'État camerounais a négocié avec Boko Haram. Si c'est vrai, s'ils négocient le cessez-le-feu, pourquoi laisser les négociations là où on apprend que Cameroun a payé beaucoup d'argent. J'ajoute en disant que le ministre camerounais des communications a dit aux médias que c'était possible que les gens de Boko Haram étaient en train de recruter au Nord Cameroun. Est-ce qu'ils sont en train de changer là où ils ont d'habitude, là où ils attaquent, c'est-à-dire Niger pour venir au Cameroun? Ce sont les questions que les Camerounais se posent depuis que cette nouvelle a été reçue au Cameroun. Est-ce qu'ils veulent venir maintenant au Nord Cameroun, là où ils ont recruté beaucoup de jeunes pendant des années? Est-ce que c'est une tactique pour changer, arriver au Cameroun et attaquer les Camerounais? Pourquoi ils sont attaqués à Amtibé Fort Kol hier et avant-hier? Et pourquoi, au moment que je vous parle, on nous dit qu'il y a toujours la guerre au nord entre Boko Haram et les Camerounais? Les Camerounais ne croient pas beaucoup à cette actualité.
À la lumière de ce que vous dites, y a-t-il une réaction des autorités camerounaises, du gouvernement lui-même?
Pas encore, mais hier matin, il y a eu une réunion entre les 10 Chinois libérés et le ministre camerounais de travaux publics, M. Ambassola. Là où les Chinois sont refusés d'aller travailler au nord. Ils ont dit qu'il n'y a pas la sécurité au nord. Ils nous relatent que pendant qu'ils étaient kidnappés au Nigeria, ils n'ont pas vu les signes que les agents de Boko Haram, les guerriers de Boko Haram, avaient laissé cette guerre. Donc, il n'y a pas une déclaration officielle, mais les Camerounais ont peur plutôt. Et les Chinois aussi, ils ont peur. Ils disent qu'ils ne peuvent pas aller là-bas au nord travailler. Les Camerounais disent que c'est comme Boko Haram a changé de tactique, venir ici au Cameroun.
Moki Edwin Kinzeka, correspondant de La Voix de l'Amérique au Cameroun. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique pour cette émission spéciale sur le cessez-le-feu, entre le gouvernement nigérian et Boko Haram. Cet accord, s'il se vérifie sur le terrain, semble clore provisoirement la décennie de conflits entre Boko Haram et les autorités nigérianes qui auront fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Cette lutte symbolise aussi les problèmes historiques de gouvernance dans le pays. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint Ado Mahaman, c'est le recteur de l'université de Tawa.
Je ne suis pas surpris parce que le conflit de Boko Haram entre dans une longue histoire de la logique politique du Nigeria. Et le Nigeria a déjà eu, une bonne partie du Nigeria a déjà eu le djihad au 19e siècle. Ils ont eu la guerre civil entre 1966 et 1970, tenté de régionalisme et des problèmes religieux. Ils ont eu un autre mouvement religieux musulman en 1984 qui s'appelle Métakiné. Et maintenant, depuis 2002, ils sont dans la logique de Boko Haram. La logique de Boko Haram est intimement liée à la gouvernance du Nigeria et des compétitions politiques des différents groupes au Nigeria.
Pensez-vous que cet accord va permettre la pérennité de la prochaine élection présidentielle l'année prochaine?
La résolution du conflit contribuera certainement à la réalisation des élections qui couvrent d'abord l'ensemble du Nigeria, parce que c'est aussi ça, la légitimité des élections, quand elle couvre l'ensemble du territoire du Nigeria. S'il n'y a pas de conflit, elle va couvrir l'ensemble du territoire du Nigeria. Et elles vont être des élections acceptables selon la manière dont elles vont se dérouler. Mais s'il y a un conflit dans une zone, les élections ne peuvent pas se dérouler puisque Boko Haram fait attaque jusqu'au centre du Nigeria. Elle fait attaque. Donc on ne peut pas organiser des élections dans une où on est sûr que les bureaux de vote ne vont pas être attaqués, comme les services de l'État, comme les villages, comme les écoles sont attaqués, brûlés, détruits. Mais voilà une condition, à mon avis, de réalisation des élections acceptables. Et si le conflit n'arrange pas tout le monde est essoufflé dans ce conflit. Les activités économiques, en partie, il y a beaucoup de réfugiés du Nigeria au Niger, au Cameroun, au Tchad, etc. La société est complètement perturbée.
Ado Mahaman, recteur de l'université de Tawa. Nigeria toujours, comment cet accord de cessez-le-feu est-il perçu par les Nigérians? Idriss Fall a joint Joël Aloua Seyoun, professeur de français à Abuja, la capitale.
En tout cas, pour les Nigérians, c'est une nouvelle qui mérite d'être célébrée parce que tout le monde a tant espéré la fin du conflit au Nigeria et tout le monde a l'espoir que vraiment tout va finir complètement. On n'aura plus de ces problèmes de conflit, d'insécurité au pays.
Ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu avec Boko Haram.
Bon, oui, justement, si on est présentement heureux de la nouvelle, on a aussi quelques réserves, puisque, comme vous le dites, nul n'est sûr si c'est authentique, nul n'est sûr si ils vont respecter l'accord. Mais on espère, on entend voir.
Ça intervient 6 mois après l'enlèvement de ces lycéennes de Chibok.
Oui, malheureusement, oui, on n'a aucune nouvelle. Mais on espère que par cet accord, on aura bientôt des nouvelles et on espère les retrouver saines et sauves. Et surtout, l'accord intervient peut-être suite à l'assassinat du leader de Boko Haram, j'espère. Peut-être c'est pour cela que bon, tout le monde décide de laisser tomber les armes.
Mais l'assassinat d'Aboubakar Tchekaou aussi a été annoncé plusieurs fois, non?
Oui, plusieurs fois, oui. Ça, c'est une nouvelle qui a beaucoup engendré d'incertitudes, mais cette fois-ci, bon, selon les sources, il paraît que c'est vrai qu'on l'a assassiné et c'est pourquoi il y a beaucoup d'ouverture à la négociation de paix.
Joël Oluwaseun, professeur de français à Abuja. Si dans la capitale on s'est réjoui de la nouvelle, dans le nord le climat est beaucoup plus morose et beaucoup doutent que cet accord puisse faire évoluer la situation, comme Amadou Moussa Adari à Kano. Ce consultant en relations publiques est très dubitatif sur ce cessez-le-feu qui ne serait qu'une nouvelle manœuvre politique en vue des élections de 2015.
Beaucoup de Nigériens viennent d'être surpris de l'information qu'on vient d'apprendre cet après-midi. Il y a peu de gens qui sont optimistes, il y a des gens qui ne sont même pas au courant de ce cessez-le-feu, de ce soi-disant cessez-le-feu. Certaines personnes ne sont même pas au courant. Ce qu'on attend de plus de la part des autorités, donc il faut attendre d'ici 2-3 jours, une semaine, pour voir est-ce que réellement le cessez-le-feu sera en fonction, parce que une fois que le cessez-le-feu est en fonction, les gens vont confirmer les suspicions qu'ils ont d'ailleurs à l'égard du gouvernement fédéral.
Également ?
Moi c'est mon sentiment. Pour moi, je l'ai dit, je le répète, c'est que Boko Haram, c'est une création pure et simple de certains individus bien placés, intouchables. D'abord quoi, les terroristes, c'est juste un groupuscule de 20 individus par rapport à l'armée nigériane. Boko Haram, même s'il faut le comparer, est-ce qu'ils sont plus de 10 000? Alors que l'armée nigériane, c'est une armée qui compte plus de 300 000 individus. Vous allez nous dire que vous ne pouvez pas écraser ces groupuscules des criminels, c'est inconcevable.
Et quelles conséquences ça a, vous, sur vos activités au quotidien?
Au début, tout est au ralenti. Maintenant, c'est au point mort. Rien ne marche, rien. Rien, je vous dis rien, le vrai rien. Rien ne marche, rien.
Et justement, alors, si rien ne marche, pourquoi finalement cette nouvelle de cessez-le-feu n'est pas mieux accueillie?
Il y a d'autres qui ne sont même pas au courant, d'autres sont... En fait, personne n'est optimiste. Parce que le gouvernement dit A alors que c'est le contraire. Le gouvernement te dit B, c'est tout à fait le contraire. Donc on a beaucoup entendu cette histoire, on a beaucoup entendu. Maintenant on attend à voir. Personne ne veut faire du commentaire. On attend pour voir les réactions. Qu'est-ce qui va se passer d'ici une semaine, deux semaines? Mais pour l'instant, rien. Et généralement, les Nigériens ont mis tout en suspense jusqu'à la fin de l'élection de 2015.
Amadou Moussa Adari, habitant de Kano, au Nigeria.
They change, people they change too. Weatherman, bring me sun, make you bring me rain too. And if you don't see me tomorrow, sing my name too. Nobody ever warned me from the things we came to. You they predict what will happen, me things it ain't true. It be some small difference between me and you. Make we cherish everything, what we see and do. He who they live for peace, equality and truth. They live with life with ease and in ways
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la technique, Jesse Brooks. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Aza et Mensa qui chantent No One Knows, No One Knows Tomorrow. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous.
Procrastinates, we wait, so the job is never done, it's never done. They say rainbows apologize for angry skies. Through rain, God blesses us when he cries. We can make the best of all, we'll holler when we try. It's inspirational, I'm charged with aspirations and dreams to follow. And leave behind my life troubles and all my sorrows. And live today, cause no one knows tomorrow.